légèrement retardée parce que vous savez qu'elle assure aussi la traduction pour les auteurs hispaniques. Donc, je vous propose qu'en attendant l'arrivée de Sylvie Miller, nous commencions d'ores et déjà cette table ronde donc, qui porte sur l'Égypte et sur laquelle nous avons Bernard Simonet, qui a écrit une trilogie sur la construction de la première pyramide et un autre roman qui s'intitule « Moïse, le pharaon rebelle », avec une thèse historique qui est assez controversée. Donc là, nous sommes dans le récit historique. À côté de lui, Alain Grousset, qui est un passionné d'égyptologie et d'histoire en général depuis longtemps, et qui il a l'air surpris. C'est ce que vous m'avez dit quand nous nous sommes vus l'autre jour.
J'avais bu.
Ne l'écoutez pas, enfin pas pour ça tout au moins, et qui a écrit un roman plutôt destiné à la jeunesse, qui s'intitule « Le magicien du pharaon » et qui se passe quelques siècles plus tard. Ah, voilà. Et donc, Sylvie Miller, qui va arriver, elle est l'auteur avec Philippe Ward d'une série de romans, trois volumes publiés pour l'instant, qui sont les aventures et les enquêtes de Lasser, détective des dieux, où là, c'est une Égypte qui n'est pas forcément celle à laquelle on pourrait s'attendre, complètement différente. Et dans la période contemporaine, puisque nous serons au milieu du XXe siècle, mais c'est une Égypte qui vous surprendra un petit peu. Alors, d'ores et déjà, pour commencer, Bernard Simonet, vous êtes intéressé au tout début de l'Égypte historique, avec la construction de la première pyramide.
Tout à fait. Disons que l'origine de cette trilogie, ça vient de mon éditeur, qui était un Jean-Paul Bertrand, donc directeur des éditions du Rocher, qui était un passionné d'Égypte. Et donc, un jour, il me dit « Oh, je cherche un auteur pour m'écrire un grand roman sur l'Égypte. » Alors, je dis « Ben, ça tombe bien, vous avez un tas d'égyptologues dans votre équipe. » Il me dit « Non, je ne suis surtout pas un égyptologue, je veux un auteur. » Voilà. Mais il n'a pas osé me dire « J'aimerais bien que vous m'écriviez un roman sur l'Égypte. » Donc, j'ai dit « Bon, ça, c'est pour moi. » Et mes problèmes, c'est que je ne connaissais pas l'Égypte, je ne suis pas égyptologue, pas historien, et ça me semblait être un défi un peu insurmontable pour quelqu'un qui ne connaissait pas plus l'Égypte que la plupart d'entre vous. Mais quand même, c'était un beau défi à relever. Et je lui ai dit, bah, écoutez, je vais y réfléchir, et puis si j'ai une idée, je vous le fais savoir. Et effectivement, bon, j'ai étudié l'Égypte, et surtout, ce que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre l'esprit égyptien. Et j'ai rencontré, donc au travers de mes recherches, deux personnages qui m'ont donné envie de parler d'eux, c'est-à-dire Djoser, le roi Djoser, qui a fait construire cette fameuse pyramide à degré de Saqqara, et un homme que l'on a considéré très longtemps comme un dieu, Imhotep, parce qu'on n'avait rien trouvé sur lui. Imhotep a été divinisé chez les Grecs sous le nom d'Asclépios, qui est devenu Esculape, donc dieu de la médecine, chez les Romains. Mais en fait, à l'origine, c'était un être humain tout à fait normal. Enfin, tout à fait normal, si on peut dire, parce que on peut le comparer à Pythagore ou à Léonard de Vinci. C'était le génie de l'époque, en fait. Il était mathématicien, architecte, médecin. Et on a découvert c'est Jean-Philippe Loher, qui est un spécialiste de Saqqara, donc qui est décédé il y a quelques années, mais il a passé 72 ans de sa vie sur le site de Saqqara. Et dans les fouilles qu'il a effectuées dans les années 30, il a retrouvé des pièces de vaisselle sur lesquelles il y avait le cartouche d'Imhotep, ce qui pouvait qu'il avait réellement existé. Et donc, à partir de là, j'ai dit que ce sont quand même des personnages intéressants et j'ai eu envie de leur imaginer une histoire. Le problème, c'est que ça se passe il y a presque 5000 ans, 4800 ans, plus ou moins deux siècles, parce que La suite des dynasties est assez difficile à connaître, parce qu'il y a une dynastie un peu en parallèle, donc il ne suffit pas d'additionner la durée du règne de chaque pharaon. Et donc ça se situe à peu près vers 4800 ans. Et là, ben, on manque effectivement d'informations, parce que ce que l'on sait sur Djoser, ça tient en deux pages. Alors j'ai collecté tous les renseignements, toutes les informations que l'on a pu avoir sur Djoser. On sait qu'il a perdu une petite fille de l'âge de 8-10 ans. On sait qu'il a mené une expédition en Nubie, dans le sud de l'Égypte. On sait qu'il en a mené une autre également dans la région du Sinaï. Et effectivement, qu'il a fait construire cette fameuse pyramide. Et donc, j'ai collecté tous ces renseignements. Et à partir de là, j'ai construit une fresque romanesque qui s'est étalée sur trois tomes, sans avoir le souci de vouloir coller absolument à une possible réalité historique. Mon but, c'était plutôt de distraire avec des personnages fascinants, Djoser et Imhotep, et de leur construire une histoire vraiment extraordinaire, avec donc des voyages, il y a des histoires d'amour, il y a des batailles. Et on retrouve dedans quand même, malgré tout, tous les éléments connus de l'histoire de Djoser. Et surtout la construction de cette pyramide, sachant que je me suis basé pour ça sur les travaux de Jean-Philippe Loher. Ayant passé 72 ans de sa vie sur le site, je pense que c'était le plus qualifié pour en parler. Et donc je me suis basé sur ses travaux. Et il y a une chose que j'ai appréciée chez lui, c'est qu'il disait, il émettait des hypothèses, mais il ne disait pas « voilà ce que vous devez penser, voilà quelle était la réalité ». Il a dit « compte tenu des recherches que j'ai faites, je pense que ça a pu se passer comme ça ». Mais il n'en était pas sûr et il n'affirmait pas qu'il avait raison. Quoi. Il se remettait constamment en question et j'ai beaucoup apprécié sa démarche. Et c'est pour ça que je me suis surtout basé sur ses livres et les livres qu'on a écrits sur lui, bien entendu. Voilà.
Et donc, Bernard Simonet, cette toute première pyramide, ce n'est pas du tout celle dont on a l'habitude, hein, les pyramides de Gizeh, donc des pyramides qui sont plus ou moins lisses sur les côtés, alors, etc. Là, il s'agit d'une pyramide à degrés.
Voilà, il était prévu d'ailleurs à l'origine qu'elle ne fasse pas 6 degrés. On en a rajouté 2 après. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça n'était pas prévu à l'origine ? On ne sait pas trop. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette pyramide, elle faisait partie d'un ensemble religieux, hein, dédié au dieu Horus, essentiellement. Et cet ensemble était à l'intérieur d'une enceinte qui faisait 500 mètres de long sur 250 mètres de large. La pyramide, il y avait 14 fausses portes et une seule porte était réelle et permettait de pénétrer à l'intérieur pour les initiés, pour les prêtres et évidemment pour le pharaon. Et il y avait des chapelles dédiées à chaque dieu. Il y avait une maison du nord et une maison du sud qui correspondaient au double royaume. Et cette enceinte faisait quand même dans les 12 mètres de haut. Ce qui fait que là, évidemment, cette pauvre pyramide, maintenant, elle a 5000 ans, elle est quand même un peu cassée. Mais à l'époque, elle était entièrement lisse et recouverte de calcaire blanc, ce qui fait qu'elle étincelait au soleil. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce qu'auparavant, les pyramides, ben, ça n'existait pas. Il y avait des mastabas construits avec des briques qui se détruisait très rapidement. Et en fait, cette pyramide, quand elle a été terminée, c'était un peu, pour le visiteur qui venait de l'extérieur, un peu comme un vaisseau spatial qui serait posé sur l'Égypte. Il faut savoir qu'à cette époque-là, nous, en Europe, on était encore à vivre dans des huttes de pierre. On était quasiment à la préhistoire. Et par contre, à cette époque-là, les Égyptiens avaient déjà une histoire, avaient déjà une architecture vraiment incroyable, parce que cette enceinte, elle est construite à partir de données mathématiques. Elle fait ce qu'on appelle un double carré. Hein, elle a 250 mètres sur 500 mètres, c'est un double carré. Et l'emplacement de la pyramide, l'emplacement des chapelles, l'emplacement de la maison du sud et de la maison du nord, tout est calculé pour être sûr des lignes basées sur... sur les nombres, finalement. Cela devait avoir une signification religieuse, bien entendu, mais sur laquelle on ne peut qu'émettre des hypothèses. Parce que, bien entendu, bon, on a peu de traces de cette histoire-là. Mais ça ouvre la porte à toutes les hypothèses, à toutes les rêveries. Et je ne me suis pas privé de rêver sur Djoser et Imhotep et sur les personnages qui gravitent autour, notamment Tanis qui est la compagne de Djoser, donc pour lequel j'ai inventé un prénom d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais retrouvé le nom de la reine. On ne connaît pas le nom de l'épouse de Djoser. Si tant est qu'il n'en ait eu qu'une seule d'ailleurs, parce qu'à l'époque, les rois avaient en général... pouvaient avoir deux, trois épouses, ça ne leur posait aucun problème. Voilà.
Alors là, comme vous le disiez, nous sommes environ 4800 ans avant le Christ, avant notre époque. Donc on sait que l'histoire égyptienne est très très longue. Et vous, Alain Grousset, vous vous êtes intéressé à une période apparemment, enfin, un peu plus récente, puisque avec vous, nous gagnons quoi à peu près 2000, nous passons vers moins 2000, donc grosso modo presque 3000 ans après l'époque que vient de nous décrire Bernard Simonet. Et donc vous vous êtes intéressé au début d'un autre pharaon qui est Antef II. Alors j'ai découvert qu'il s'agissait, je crois, de la 15e dynastie, ce qui donne déjà une idée de la longueur des choses. Et donc, vous êtes intéressé au tout début du règne d'Antef II.
Oui, j'ai voulu mettre de la distance entre Bernard et moi. Alors, bon, moi, c'est complètement différent, oui, parce que j'écris essentiellement pour la jeunesse et essentiellement aussi de la science-fiction, mais de temps en temps, j'aime... j'allais dire un peu me laver la tête en faisant quelques romans historiques, souvent sur le 19e siècle, mais bon, tout en gardant l'âme. J'essaye toujours dans tous mes livres qu'il y ait un voyage géographique. Bon, faut que je me mette plus près. Un voyage géographique, un voyage technologique et un voyage initiatique. Voilà, ça, c'est les trois recettes que j'essaye de mettre à chaque fois. Donc là, l'Égypte, ça m'a intéressé. Pourquoi ? Parce que j'ai un ami qui est prédicateur et qui, en discutant avec lui, m'a dit « Ah oui, mais c'est au moment de l'Égypte que la préditation a pris de l'ampleur. » Donc là, ça a été un petit déclic en me disant « Tiens, je vais bien choisir l'Égypte. » Bon, c'est vrai qu'aussi, du point de vue éducation nationale, l'Égypte, ça plaît bien aussi aux enfants. Donc voilà pourquoi je m'y suis mis. Alors après, le choix... du pharaon. Alors le choix du pharaon, ça c'était autre chose parce que il me fallait, pour faire plus vrai, que je prenne quand même un pharaon, mais alors lequel ? Donc je me suis penché sérieusement sur la question et alors j'ai jeté mon dévolu sur Antef Ier au début, puis après Antef II. Alors ça faisait un peu Antenne 1 et Antenne 2, mais enfin bon, mais ça avait le. Pour moi, c'est il fallait pas non plus que je choisisse un pharaon connu. Des enfants qui est tout à fait bon, et ainsi de suite. Donc ça, je voulais pas prendre ça. Donc voilà, j'ai vraiment quelque part un peu le hasard. Hein. Donc, et après, une fois que j'ai eu pris ces deux pharaons-là, là, je me suis intéressé un peu à eux pour savoir quelle était leur vie et puis comment j'allais pouvoir m'en servir dans mon histoire. Mais là, donc non, effectivement, je suis pas un spécialiste de l'Égypte, mais c'est toujours assez intéressant de se lancer dans une sorte de défi en me disant est-ce que je vais arriver à m'en sortir, est-ce que je vais pas arrêter de dire trop de bêtises, et puis lorsqu'on aime bien chercher de la doc, ça va, et puis comme je fais partie des auteurs structurants là qui aiment bien tout savoir avant de commencer, ça me permettait de me plonger pendant 6 mois sur un petit peu comment les Égyptiens vivaient à cette époque là voilà comment ça a commencé. Mais ça n'a pas été, j'avais pas fait une fixette vraiment sur ces pharaons-là à ce moment-là.
Mais vous prenez une approche qui est quelque part très moderne, parce que en fait le cœur du récit, c'est la lutte contre le pouvoir religieux. J'allais dire entre pouvoir séculaire et pouvoir religieux, mais comme le souverain est lui-même un dieu incarné. Donc c'est entre deux déités, entre deux systèmes religieux.
Oui, ça c'est peut-être une marotte, parce que je l'ai déjà traité plusieurs fois aussi dans différents romans et même de science-fiction, parce que bon, dès que vous mettez un monde en place, il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas une religion ou plusieurs religions qui se mettent en place aussi. Et je me suis aperçu que dans toutes les religions, il y avait quand même des constantes, c'est-à-dire que je reprends toujours la phrase que je trouve magnifique d'un ami qui dit « Dieu ne me pose pas de problème, c'est son personnel au sol qui m'en pose. » Et donc, quelle que soit la religion, je pense que c'est ça, c'est le personnel au sol qui pose problème. Donc le Dieu était le représentant vivant, la ligne directe avec les dieux, et le représentant physique des dieux, mais qu'après, il y avait tout ce beau monde qui, avec les offrandes et tout ça, essayait d'amasser et du un maximum d'argent, de richesse, et en même temps de pouvoir, et essayer d'étendre ce pouvoir au pharaon en lui prêtant de l'argent, en sachant qu'il allait avoir des difficultés pour rembourser, et du coup, après, avoir une mainmise sur le gouvernement en place, quoi, on va dire. Voilà. Donc, c'est effectivement très moderne. Pourquoi c'est très moderne? C'est parce que ça traverse le temps et que c'est toujours pareil, quoi. Voilà, c'est une constante comme ça.
Alors, l'Égypte a une très longue histoire, on vient de le voir. Et vous, vous êtes intéressé à l'Égypte contemporaine, quasi contemporaine pour nous, celle des années 30. Mais il y a eu quand même une légère petite bifurcation de l'histoire quelque part, parce que votre Égypte, c'est pas tout à fait celle dont on a l'habitude.
Non, effectivement, dans l'environnement de la serre, on est effectivement dans les années 30, mais dans une Égypte où l'Antiquité existe toujours. Nous sommes avec le pharaon Toutmosis 38. Il y a 9 pyramides sur le plateau de Gizeh, forcément, parce que chacun a voulu ajouter la sienne. Et donc, on se retrouve dans un environnement qui mélange en fait tous les codes antiques avec une espèce de modernisme, parce qu'il y a quand même quelques voitures. Enfin, les choses ont évolué, mais on a toujours la structure sociale un petit peu de l'époque, un peu modernisée. Et puis, comme on est dans de la fantaisie, puisque nous, on a fait un joyeux mélange, les dieux marchent au milieu des hommes. Donc, les dieux viennent voir leurs fidèles. Alors, on pourrait penser que c'est une Égypte totalement fantasmée, etc., mais pas du tout. C'est-à-dire que, comme un certain nombre de gens de notre génération, Philippe Ward, mon co-auteur et moi, on est allé au Louvre voir Toutankhamon quand on était petit. Et il en est résulté une espèce de passion pour cette période-là, qui est quand même, pour les hommes modernes que nous sommes, assez fascinante. Alors j'ai entendu tout à l'heure le nom de Jean-Philippe Loher, avec ses travaux que moi j'avais suivis aussi à l'époque, que j'avais lus et qui sont extrêmement intéressants. Et c'est donc pas par hasard que notre détective s'appelle Jean-Philippe Lasser. Il y a donc un hommage déguisé.
Bravo.
À ce grand égyptologue. Et donc, dans la mesure où on tenait quand même à respecter une certaine cohérence et un certain nombre de personnes un petit peu spécialistes de ces époques-là ont lu, et on dit que ça tenait tout à fait la route. C'est-à-dire qu'il fallait imaginer le monde de cette époque-là encore debout. Donc à l'endroit où nous avons aujourd'hui un temple en ruine et où dans les années 30 il était en ruine bien évidemment, nous l'avons reconstruit, ou tout au moins il n'a pas été démoli, il est resté. Donc ça a été énormément de documentation à compulser pour voir justement comment étaient bâtis les temples, les maisons, comment étaient organisées les villes, comment les gens vivaient, et imaginer ensuite comment ça pouvait s'être un petit peu modernisé quand même, tout en conservant un certain nombre de caractéristiques de l'époque. Donc en fait, c'est comme si on avait transporté l'Égypte antique au jour d'aujourd'hui. Et pas que l'Égypte d'ailleurs, parce que tout le reste du pourtour méditerranéen et le reste du monde également est resté antique. Chez les Romains, on va aussi avoir les dieux, les temples, on vit encore un peu à l'ancienne, tout en ayant modernisé certaines choses. Et ça donne un terrain de jeu vraiment très 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 amusant, parce que ça permet de construire des intrigues. On a aussi des créatures mythologiques qui sont tirées de l'époque. Par exemple, notre détective a un indique qui est un sphinx et qui n'accepte de délivrer ses informations que si on résout une énigme. Donc,
sinon, il bouffe les questionneurs.
Oui, sinon, il bouffe le questionneur. Oui, tout à fait. Donc, c'est assez amusant, mais ça permettait vraiment d'aller chercher...
Pas pour celui qui se fait bouffer, quand même.
Oui. Et les dieux, c'est pareil, ils circulent au milieu des hommes, ils ont vraiment bien leurs caractéristiques. Donc ça a vraiment été des recherches. Alors on voit en Égypte toutes les querelles de famille entre Isis, Seth, Horus, etc., etc., Osiris. On plonge quand même dans le monde antique, là.
Oui, puis ça avait un sens assez particulier de la famille, parce que Isis était l'épouse et la sœur d'Osiris. Nephthys était l'épouse de Seth, mais avait un gosse avec Osiris, le fameux Anubis. Alors ça donne des problèmes de famille.
Sans compter l'inceste entre Seth et Horus.
Heureusement qu'on est dans une époque où il y a la télé. Hein, on voit bien.
Oui, tout à fait, oui.
Mais il
pour redonner un peu de moralité à tout ça. Quoi,
quand même. Il semble que c'était non seulement chez les dieux, mais les pharaons eux-mêmes... Absolument. Dans les différentes dynasties, les pharaons épousaient leurs sœurs. Ça restait.
Oui, alors ça, c'est vrai et c'est faux. En fait, lorsqu'un pharaon épousait sa fille, c'était un mariage blanc. C'était symbolique. Hein, c'était simplement pour des raisons politiques. En réalité, il y a eu très peu d'inceste en Égypte. Le mari et la femme avaient l'habitude de s'appeler mon frère et ma sœur. Et c'est pour ça que les premiers égyptologues disaient comment ils se mariaient entre frères et sœurs. Et alors on en a fait des personnages incestueux, des gens qui se marient entre frères et sœurs, oncles et nièces et ainsi de suite. En réalité, il y a eu certainement, comme dans toute civilisation, des histoires d'inceste, mais elles étaient beaucoup moins importantes que ce qu'on a voulu nous faire croire au début. Voilà.
Sylvie Miller, vous...
Oui, je voulais réagir. Il y a quand même eu des cas où ça a eu lieu, puisqu'ils avaient fait des recherches, notamment génétiques, sur un certain nombre de squelettes, où ils avaient effectivement retrouvé des liens de parenté qui prouvaient que...
Oui, tout à fait,
il y avait eu notamment certains cas où le père avait épousé la fille et avait consommé le mariage, et où un enfant en était né.
Tout à fait, oui.
C'est quand même arrivé.
Disons que, par exemple, Hatshepsut a épousé son demi-frère. Et a eu un enfant avec lui. Ça ne choquait pas plus que ça. Mais disons que c'était quand même des phénomènes beaucoup moins importants que ce qu'on a pensé à une époque, parce qu'il y a eu de mauvaises interprétations de certains textes, en fait. Là, maintenant, bon, les égyptologues sont revenus un peu là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y en a eu des histoires comme ça. Enfin, quand on voit les lignées royales européennes, s'ils sont hémophiles maintenant, c'est pas pour rien. Ils se marient entre cousins germains.
Qu'en fait, les pharaons étaient de sang divin et il fallait donc pas. Il fallait garder ce sang pur. Il fallait garder la lignée.
Exactement.
Alors qu'effectivement, ces cas d'inceste, on les avait absolument pas dans la population qui profane.
Non. Et la population. Alors effectivement, le mari et la femme s'appelaient souvent mon frère et ma sœur, ce qui fait que. On a cru qu'ils étaient frères et sœurs, alors que ce n'était pas vrai en réalité. Puis j'ai vu un rapport avec la mort qui était assez curieux. J'ai mis dans un de mes romans, je ne sais plus lequel. Contrairement à nous qui n'aimons pas trop aller traîner dans les cimetières, les Égyptiens avaient l'habitude d'aller faire la fête dans les nécropoles. Et ils invitaient les morts, ils leur faisaient des offrandes dans leur tombeau, et c'était pas du tout triste, c'était très joyeux. Le mort était là, on bavardait avec lui, évidemment, il n'était pas là pour répondre, mais on imaginait les réponses et comment, très souvent, ils allaient pique-niquer dans les nécropoles. Et ça ne les gênait pas du tout. Et il y avait des lettres, j'en ai mis une dans un de mes romans de la trilogie, ils leur écrivaient aux morts. Et je me souviens, c'est une lettre que, en gros, elle disait ça, il y avait une épidémie de peste et le mari avait perdu sa femme. Il lui écrit en lui demandant d'intercéder auprès d'Osiris pour que, il ne le fasse pas mourir trop tôt. Et il prend ses précautions, il dit, c'est pas que je n'ai pas envie de te rejoindre, mais j'aimerais bien rester encore un peu. Et cette lettre, en fait, a été inspirée par une lettre qui a été réellement écrite. Je l'ai adaptée pour mon récit, mais c'est quasiment recopié sur cette lettre-là. Quand j'ai lu ce truc-là, ça m'a beaucoup fait rire et j'ai trouvé ça très amusant et je l'ai mis dans le roman. Voilà. Donc ils avaient un rapport avec les morts beaucoup plus, on peut dire, joyeux que l'autre, parce que nous, on est très tristes. Eux, ils pensaient qu'ils allaient rejoindre un pays qui était l'Égypte céleste, le Nil céleste. Et donc, quand ils mouraient, si leur esprit, leur âme était plus légère que la plume de la mâtre, hop, ils montaient dans ce Nil, ils aimaient tellement leur pays qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils n'allaient pas le retrouver dans l'au-delà. Voilà.
Mais alors justement, là, on aborde ce thème de la religion, et évidemment, on connaît tous cette histoire, ces croyances très fortes qui nous ont tous marqués avec la momification des corps, etc. Mais donc, la religion était quelque chose qui était fondamental au cœur du système social égyptien. Et vous avez quand même des mots parfois assez durs, Alain Grousset, vis-à-vis des prêtres et des miracles que peut opérer la religion dans votre roman.
Oui, mais bon, à partir du moment où il s'oppose, enfin dans mon récit, hein, à partir du moment où il s'oppose au pharaon, il fallait que je montre donc leur travers, les méchants c'était les autres, donc, et à partir de là, il fallait que je démonte un petit peu leur mécanisme, et ce mécanisme, il se servait, et là, puisque ça revenait à la préjudication, il se servait d'artifices. Pour influencer les foules, qui étaient les offrandes qui disparaissaient des temples, les statues qui parlaient, les portes qui s'ouvraient toutes seules. Et là, ça impressionnait énormément les foules, alors que tout ça était vraiment des lois de la physique. Et ils avaient tout compris pour faire les tours. Les portes pour s'ouvrir, ils allumaient un feu, ce feu poussait de l'air en dessous, qui même poussait de l'eau, qui cette eau faisait tourner une poulie, et crac, les portes s'ouvraient. Et donc, quand ça refroidissait, les portes se referment toutes seules. Enfin, ils étaient...
Et ça, c'est tout à fait vrai, parce que c'est complètement réel, cette histoire-là. C'est Héron d'Alexandrie qui a imaginé ce système-là, et les portes des temples s'ouvraient automatiquement, avec la vapeur.
Alors que nous, maintenant, c'est les centres commerciaux. Mais on y croit. Et puis... pour parler, donc ils avaient des conduits, les statues, il y avait des conduits, et donc il y avait un prêtre qui était caché. Donc lorsque les gens interviewaient le dieu, la statue parlait, donc c'était fou. Donc j'ai démonté tout ça un petit peu dans le livre. Voilà, moi j'en avais besoin pour mon romanesque, quoi. Et en même temps, ça m'amusait bien. Et donc je place aussi dans l'autre sens, donc je fais passer au pharaon une autre histoire dans de supercherie pour pouvoir impressionner les foules. On prend des oisillons et on les élève à ce qu'ils mangent les graines dans l'oreille du pharaon. Et donc, le jour de la foule et tout, le pharaon dit « Écoutez, moi, j'ai mes espions partout. Tout ce que vous faites, je sais le faire. » Donc, la foule est complètement impressionnée. Et ces espions, ce sont les oiseaux. Et à ce moment-là, donc, il y avait un mec qui lâchait les oiseaux et les oiseaux venaient et avait l'impression de murmurer des choses, de raconter des choses à l'oreille du pharaon, alors qu'il venait picorer des graines. Et donc la foule se disait, alors là, on ne peut pas lutter, parce que quoi qu'on fasse, il y a toujours un piaf quelque part sur un arbre qui est en train de voir ce qu'on fait. Voilà, c'était assez rigolo, donc j'ai raconté ça.
En revanche, Sylvie Miller, les dieux dans votre Égypte, ils rigolent pas beaucoup, hein. Eux, ils sont vraiment toujours tout puissants. Et là, il n'y a pas de miracle frelaté.
Non. Les dieux, effectivement, dans la serre, c'est des vrais dieux avec plein de pouvoirs, qui d'ailleurs dominent les hommes et pour qui les hommes, c'est vraiment quotité négligeable. Alors, ils en ont quand même besoin parce que plus ils ont de fidèles, plus ils sont puissants. Donc, ils vont passer leur vie à essayer de se voler les fidèles les uns des autres, à créer des catastrophes. Alors, disons que dans le panthéon égyptien, il y a de relatifs accords, mais si un autre dieu voulait fouler la terre égyptienne pour essayer de... Il serait automatiquement refoulé par les dieux égyptiens, chacun son territoire. Et donc, évidemment, ils vont demander aux hommes de faire des choses pour eux, dont notamment Jean-Philippe Lasserre, le détective, dont lui, son unique plaisir, c'est de boire du whisky au bar du Cheramon, l'hôtel dans lequel il habite. Et assez régulièrement, il se trouve un dieu qui vient le voir en lui disant, là-bas, ça commence par Isis, qui lui dit, voilà, vous êtes détective, Thoth a perdu son manuscrit, donc il faut absolument aller le chercher. Et donc là... En l'occurrence, Lasserre n'a pas le choix, puisque à un moment donné, donc, il y a des pachas qui sont installés dans le bar, et un pacha fait une espèce de réflexion déplacée sur la plastique absolument magnifique d'Isis, et d'un doigt, Isis le vaporise. Donc les hommes n'ont pas trop le choix, Et évidemment, dans le panthéon égyptien et dans les autres panthéons d'ailleurs, parce que chez les Grecs et chez les Romains, il y avait aussi des sacrés caractères, ils sont décrits comme ça, avec un certain nombre de caractéristiques, qui a des côtés comme ça assez vilains. Isis est quand même exigeante également. Et donc, quand la colère des dieux s'exerce, il ne fait pas bon pour les hommes.
Tu n'as pas été très tendre avec Isis, parce que Isis est quand même une déesse plutôt positive.
Oui. C'est-à-dire qu'on voit aussi son côté protecteur. Mais Isis, par exemple, quand on veut l'attaquer, notamment quand Osiris avait été coupé en morceaux, elle avait réagi.
Oui, ça se comprend quand même.
Voilà.
Elle était en colère, mais bon.
Voilà. Mais donc voilà, lorsque d'autres dieux menacent, elle peut se fâcher, elle peut se montrer toute puissante. Et lorsque les hommes refusent d'obéir, elle peut aussi se montrer désagréable.
Oui.
Surtout qu'en plus... elle se sent encore un peu frustrée et heureusement, à un moment, c'est la serre qui va résoudre les frustrations d'Isis à suite au découpage de son mari
et
au morceau crucial manquant.
Isis a donc été découpé en morceaux et là, dans la légende, effectivement, il est vrai que, aidé d'Horus, ils vont parcourir les déserts, etc., et retrouver les morceaux. Malheureusement, dans le cas de la serre, enfin, elle avait retrouvé tous les morceaux. Non, il en manquait un. Et donc, la légende disait qu'ensuite, Isis avait façonné, donc c'était le sexe qui manquait, et qu'elle avait façonné un sexe, etc. Donc là, chez la serre, le morceau a été retrouvé. Mais Isis l'a gardé dans un bocal et donc le rend à Osiris quand elle a envie de faire des galipettes avec son époux. Et donc, malheureusement, une servante ne sachant pas égare le bocal, on perd le sexe. Et donc, imaginez Isis qui va donc aller voir son détective favori et lui expliquer ce qu'il va devoir chercher. Et entre-temps, la chose est tombée dans le Nil, a été bouffée par un crocodile qui se retrouve d'un coup avec des espèces de pouvoirs divins. Il devient très gros, enfin bon, bref. La serre est obligée d'aller dans le ventre du crocodile pour chercher le sexe. D'ailleurs, la serre, la première fois qu'il voit la bestiole, il fait « Ouh là, non, je ne vais pas m'y risquer. » Et du coup, Isis lui dit « Mais enfin, mais ça ne va pas, non, mais vraiment, vous faites votre mijaurée, tout ça, parce que vous ne voulez pas mourir, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc, il est obligé d'aller chercher le sexe. Et on a aussi une magnifique scène où il farfouille dans tout ce qui se trouve dans les boyaux de la bestiole. Et d'un coup, il attrape la chose, il fait « Ouais, je l'ai !» avant de réaliser ce qu'il est en train de tenir.
Il manque toujours une pièce dans les puzzles, c'est dingue.
Il faut dire une chose, c'est que dans la véritable légende, comment Isis façonne effectivement un sexe à Osiris et ça couple avec lui, et c'est de là que naît Horus.
C'est de là que naît Horus.
Voilà, effectivement. Mais effectivement, on peut interpréter tout comme on veut.
Oui, bien sûr. Là, le but, c'est de jouer un petit peu sur les légendes, tout en donnant envie aux gens ensuite, après, d'aller chercher pour voir...
J'irai pas dans le vent du crocodile. Hein. Non. Ça, je m'arrêterai à la page d'avant.
Ça sent que vous amusez bien, quoi.
Oui, absolument. Oui. C'est très amusant de jouer avec ces légendes, parce que c'est quand même un imaginaire fabuleux. Et à la limite, c'est de la fantaisie, quoi.
Ah, complètement.
Je suis le modérateur, et comment vous vous débrouillez tous les deux, là ? Il y en a un qui est spécialiste des archives, ou l'autre...
Alors, on a des connaissances tous les deux parce qu'on a lu pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'après, quand il y a un petit peu de recherche à faire, c'est souvent moi qui m'y colle.
Alors, moi d'avoir pris ton...
Non, mais ça, c'est le rêve pour le modérateur. Quand il n'a plus rien à faire, on se substitue à lui, c'est l'idéal.
En fait, je
peux faire comme vous, je n'ai plus qu'à écouter.
La question est posée parce que nous avons là aussi le membre d'un binôme d'écrivains. Donc,
Oui, j'aime bien écrire à deux, je trouve ça sympa. Et le fait aussi de binôme d'écrire homme-femme, je trouve que c'est encore plus complémentaire que d'écrire deux hommes ou deux femmes, parce qu'il y a des aspects qu'une femme va traiter plus particulièrement. Et puis, moi, quand j'écris beaucoup avec Daniel Martinigol. Moi, je m'occupe de la bouffe et des bagarres. Et elle, tout ce qui est sentiments, c'est elle qui s'y colle. Quoi, voilà.
Moi, j'écris tout seul. Non, je m'en plains pas. Pardon ? Avec... Oh, bien sûr, les chats égyptiens, oui. La déesse Bastet, elle a son coussin d'ailleurs. Voilà.
C'est vrai que les Égyptiens adoraient momifier. Hein. C'était pas feignant de ce côté-là.
Même les chats.
Surtout les chats, parce qu'il y avait un moment, au 19e, ils ont tellement découvert des nécropoles remplies de momies de chats, il les récupérait, il les broyait et ça faisait de l'engrais en Angleterre.
Donc c'est quelle horreur, c'est vrai. Oui. Bon, ils ont momifié des taureaux également, les taureaux, les fameux taureaux Apis, dans le Serapeum, là, qui se trouve à Saqqara d'ailleurs. Oui, c'est une...
Ben dans la serre, justement, un de ces fameux taureaux Apis, au moment d'arriver à son sacrifice, les dieux l'épargnent et lui donnent un corps d'homme et gardent sa tête de taureau. Et donc, il décide de devenir tenancier de boîte de nuit. Et ça sera donc un des indices de la serre. Et là, en parlant des chats, Sekhmet vient voir la serre en lui disant que il y a un concours félin qui est organisé où tous les dieux du monde entier vont apporter leurs animaux pour qu'ils s'affrontent. Et une magnifique chatte appartenant à Sekhmet a disparu. Donc, évidemment, la serre va devoir la retrouver. Et Sekhmet lui dit, ben voilà, vous avez un assistant et donc un chat qui parle. Et donc le chat parle et en fait c'est Nefertum qui était un dieu très facétieux qui s'est transformé en chat parce qu'il a envie de jouer les détectives.
C'est génial, moi je crois que je vais le prendre ce truc là parce que ça donne envie quoi.
Oui. Alors là je ne sais pas si dans un futur roman la serre aura l'occasion d'être transportée dans le temps et de résoudre un autre mystère égyptien auquel s'est attaqué Bernard Simonet, que je trouve tout à fait fascinant, qui est celui de la véritable identité possible de Moïse.
Hein, possible
et qui
identité,
démontrerait, d'après ce que vous expliquez, on voit aussi les difficultés des généalogies égyptiennes, puisque en fait... dans votre hypothèse, il est à la fois fils et petit-fils et arrière-petit-fils du même homme, du même pharaon.
Tout à fait. En fait, mon éditeur m'avait offert un livre écrit par un Allemand qui s'appelle Rolf Krauss, qui s'appelait Moïse le pharaon. Bon, Moïse, on ne sait pas s'il existait, on ne sait pas à quelle époque. J'étais un petit peu intéressé au personnage, mais sans idée derrière la tête. J'avais pas du tout l'intention d'écrire un roman sur le personnage. Et quand j'ai lu ce livre, alors il y a eu plusieurs hypothèses, hein, notamment avec Freud qui disait que c'était un disciple d'Akhenaton à cause du monothéisme. Mais en réalité, quand on étudie le monothéisme d'Akhenaton, on s'aperçoit que ça n'a pas de rapport avec le monothéisme de Moïse. Il y a eu d'autres hypothèses, ce qui fait qu'en fait, Moïse, on ne sait pas le situer, on ne sait pas s'il existait. Moi, je pense qu'en réalité, c'est un personnage, ce qu'on appelle syncrétique, c'est-à-dire qui a été créé à partir de différents personnages, et l'un d'eux peut être effectivement ce pharaon qui a régné pendant 2 ans sous le nom d'Amon-Masessa, qui était à la fois petit-fils et arrière-petit-fils de Ramsès II. Il était petit-fils parce que sa maman s'appelait Tahat. C'était une fille que Ramsès II a eue sur le tard, et elle a épousé un petit-fils de Ramsès II. Donc qui était son neveu en quelque sorte, mais qui avait 10 ans de plus qu'elle. Elle avait 15 ans quand elle l'épousait, lui il en avait 25, et ils ont eu un fils, Amon-Masessa. Et cet Amon-Masessa, en fait, s'est opposé par la suite à son père. Il a régné pendant 2 ans sur l'Égypte du Sud, puisqu'il a fait sécession, en fait. Son père, c'était Séti II, qui s'est révélé être un épouvantable tyran. Pour vous donner une idée du personnage, il a fait empaler, je crois que c'était 9000 bédouins de l'Ouest, dans les environs de Memphis, de Ménophré. Ménophré étant l'ancien nom de Memphis, les noms égyptiens. Et donc, c'était vraiment un personnage épouvantable. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut savoir à propos des Hébreux, donc dans la Bible. Les Hébreux n'existaient pas à l'époque de Ramsès II, ce qui fait que c'est un peuple qui s'est formé vers le 9e siècle avant Jésus-Christ, et Ramsès II est mort en 1213 avant Jésus-Christ, donc quand même 3 siècles avant. En revanche, il y avait à l'époque un peuple qu'on appelait les Apirous. Les Apirous étaient un peuple de bédouins, nomades, qu'on retrouvait jusqu'en Anatolie, en Turquie, et aussi en Égypte, et ils louaient leurs services comme mercenaires, comme carriers, comme cultivateurs, vignerons, mais ils étaient payés. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de la légende des esclaves du peuple juif, du peuple hébreu, donc esclave des Égyptiens, elle est fausse. Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'esclaves, ou très peu, en Égypte. Il y avait des prisonniers de guerre, mais ils étaient libérés au bout de quelques années, et c'était l'un des rares peuples de l'Antiquité qui ne pratiquait pas l'esclavage, ou alors très, très rarement. Donc les gens qui ont construit la ville de Pi-Ramsès, la ville de Ramsès II, étaient payés comme des ouvriers égyptiens, même s'ils étaient étrangers. Et donc, moi j'en ai un petit peu marre de voir toute cette sempiternelle histoire qui est extraite de la Bible et traitée par les Américains dans les 10 commandements, par exemple, avec cette opposition entre le méchant Ramsès et le gentil Moïse, qui c'est un manichéisme total et complètement faux, parce qu'on connaît très très bien l'histoire de Ramsès II, et il n'y a absolument rien dans son histoire qui permet de penser que Moïse vivait à son époque et qu'il a été qu'il s'est opposé à Ramsès II. En revanche, si l'on admet que Amon-Massessa a été vaincu par son père et il a disparu, et à partir de là, on peut imaginer que... Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que le Moïse de la Bible a la même parenté. C'est-à-dire qu'il avait un père et une mère, dont la mère était la tante de son mari. Chose qui est absolument extraordinaire, parce que dans la Bible, il est bien dit, tu ne convoiteras pas la sœur de ton père, car elle est de ton sang. Donc, trouver que Moïse avait un père et une mère qui étaient liés par les liens de tante à neveu, c'est quand même assez curieux. Ça ressemble effectivement aux parents de Moïse. Alors, Moïse est un nom d'origine égyptienne. Mos veut dire enfant, Messie veut dire enfanté, vous voyez. Donc, on essayait de faire un jeu de mots après dans la Bible pour dire que Moïse veut dire retirer des eaux. C'est un jeu de mots sur une déclinaison du verbe machash qui veut dire retirer. Et en fait, c'est une déclinaison assez, assez vaseuse quand même. En revanche, Moïse veut bien dire enfant. Et donc, Moïse serait peut-être inspiré par ce pharaon qui, vaincu par cet hideux, s'est enfui dans le désert et il a, à partir de ce moment-là, vécu une vie un petit peu semblable à celle que Moïse avait, enfin, à la vie décrite dans la Bible pour Moïse. Alors, ce que j'ai voulu faire également, donc je suis parti de ce principe-là, je ne sais pas si c'est la vérité, je précise l'avant-propos que je ne prétends pas raconter la véritable histoire de Moïse, mais je dis, compte tenu de la parenté, de certaines similitudes troublantes, il y en a d'autres également, hein, il est très possible que ce personnage n'était pas Moïse, mais a pu en partie inspirer les rédacteurs de la Bible pour le personnage de Moïse. Voilà. Et donc, à partir de là, je me suis inspiré aussi, évidemment, de la Bible. C'est-à-dire que toute la première partie est basée sur ce que l'on sait de ce personnage, parce qu'on a quand même des éléments historiques précis. Et puis, à partir du moment où il fuit l'Égypte, eh bien, je lui fais vivre la vie de Moïse en m'inspirant de la Bible, mais en prenant pour modèle le Moïse qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Parce que dans la Bible, il y a des contradictions dans le personnage de Moïse. Il est capable de dire « aime ton prochain comme toi-même », mais quelques pages plus loin, il dit, lors de l'histoire du veau d'or, là, « prenez vos armes et tuez vos frères, vos amis, vos voisins ». C'est textuellement ce qui est écrit dans la Bible. Donc c'est un peu contradictoire tout ça. Alors en fait, j'ai gardé ce personnage et en face de lui, il y a des prêtres qui, eux, sont des intégristes. Ça, c'est un thème qui revient beaucoup dans mes romans, c'est une lutte contre l'obscurantisme, contre l'intégrisme. Et Moïse, justement, en tant qu'Égyptien, est adopté par les Apirous, et il revient après en Égypte s'opposer à son père, Séti II. Et il y a une relation très ambiguë entre les deux, parce que quelque part, le père admire le fils, et le fils a de temps en temps des... Bon, c'est vrai que son père est un épouvantable tyran, mais on sent qu'ils ont loupé quelque chose tous les deux. Il y a des moments où il y a des moments où on se demande s'ils ne vont pas tomber dans les bras l'un de l'autre et se pardonner mutuellement. Et puis, il y a toujours quelque chose qui fait que il recule au dernier moment. Et il y a une histoire un peu tragique entre les deux, vous voyez. Et donc, voilà, ça a donné ce personnage. Chacun en fera ce qu'il veut. Ce qui m'a fait plaisir, malgré tout, c'est que je m'attendais à une réaction un peu hostile de la part des prêtres de l'Église. Et finalement, beaucoup m'ont dit, c'est une autre vision de Moïse, mais elle est très intéressante. Et j'ai pas du tout été attaqué par ces gens-là, comme, enfin, je le redoutais pas, hein, ça m'amusait un peu de les titiller, mais non, finalement, ils ont plutôt aimé, voilà.
Je pense que ça t'aurait plu d'être excommunié, toi.
Oui, surtout que je suis même pas baptisé, alors.
Est-ce que...
Je suis un épouvantable mécréant, je suis désolé.
Et est-ce que pendant, donc il a régné pendant 2 ans avant d'être obligé de se réfugier, est-ce qu'il s'est réfugié pendant 40 ans dans le désert ?
Non, en fait, l'histoire de... Oui, parce qu'il y a toute la légende de Moïse, les eaux qui s'écartent. Alors il y a des chercheurs, notamment un Italien qui s'appelle Emmanuel Anati, dont je me suis inspiré pour ce roman, qui ont essayé de donner... Des explications plausibles, crédibles et parfaitement réalistes à tous les événements un peu extraordinaires, un peu fantastiques que l'on trouve dans la Bible. Alors, tout d'abord, le mont de Moïse, le Djebel Moussa, qui se trouve au sud du Sinaï, on a décrété, c'est un empereur romain chrétien, je ne sais plus, je crois que c'est Justinien, mais je ne vous garantis pas le nom, qui a décrété que la montagne de Moïse ne pouvait être que la plus belle montagne du sud du Sinaï. Et c'est vrai que cette montagne est absolument d'une beauté extraordinaire. Mais il n'avait absolument aucune raison d'aller dans le sud du Sinaï. En réalité, ils ont longé le nord du Sinaï pour rejoindre la Palestine, finalement. Hein. Et ils n'ont pas mis 40 ans pour y arriver. Par contre... Il y a eu pas mal de péripéties au cours du voyage. Et alors, notamment à propos de la séparation des eaux, il faut savoir qu'au nord du Sinaï, il y a un endroit qu'on appelle le lac Bardawil, qui est séparé de la Méditerranée par une langue de terre qui fait 80 km de long, et par endroit, elle ne fait que 30 mètres de large. C'est du côté de la ville de Péluse, qui se trouve sur la partie occidentale. Et donc, en fait... Pour échapper aux poursuivants, le pharaon, donc Séti II, ils se sont engagés sur cette langue de terre et puis ils l'ont parcouru. Et au milieu, il y a effectivement une espèce de promontoire que les marins utilisaient comme amer, comme repère. Et en fait, on peut imaginer qu'à cette époque-là, il y a eu un raz-de-marée qui a provoqué un tsunami en quelque sorte. Les apirous, guidés par Moïse, se sont réfugiés, ont eu le temps de se réfugier sur cette surélévation, et les troupes de Séti II qui les poursuivaient ont été emportées par le tsunami. Voilà. Bon, ça, c'est une explication. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Emmanuel Anati. Il dit ça peut-être.
C'est lié à l'explosion de l'île de
l'explosion. Saint-Marc. Oui, alors, il est possible que ce soit lié à... l'explosion de la ville de l'île de Terra. Alors en fait, l'explosion qui a détruit la civilisation minoenne, c'est plutôt au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Là, on est quand même à la fin du XIIIe siècle et même au début du XIIe, je crois. Mais c'est quand même une région sujette aux tremblements de terre et des tsunamis. Il y en a eu plusieurs. Donc on peut imaginer que précisément à ce moment-là, il y a eu un tsunami qui a emporté l'armée que le pharaon avait envoyée. On peut imaginer aussi qu'il a été tué qu'il s'est noyé dans cette poursuite également, bien entendu. Ça fait partie du roman. Est-ce que c'est la vérité? Alors ça, je ne vous garantirai pas à 100%. Hein. Je dirais que ça ne reste qu'un roman et une hypothèse parmi d'autres, bien entendu.
Alors ça, c'est l'explication rationnel pour se substituer à un dieu. Dieu monothéiste qui, dans le monde de Lasserre, existe mais n'a pas eu beaucoup de succès. Hein. Si je me souviens bien, il est poursuivi, le dieu des Hébreux.
Alors, disons que dans le monde de Lasserre, on ne le présente pas beaucoup, on l'a à peine évoqué. C'est un espèce d'obscur petit dieu qui voudrait bien dominer tous les autres et que l'on va d'ailleurs rencontrer dans le tome 4 et qui va être un peu plus développé puisque nous allons à Rome. Donc nous allons forcément trouver d'obscures sectes dans des caves qui veulent vénérer ce dieu qui se fait appeler l'unique et qui voudrait bien être le seul. Et donc là, pour l'instant, évidemment, les autres dieux arrivent à le contenir en exterminant donc les gens qui croient en lui, puisque du coup, s'il y a peu de croyants, il va avoir du mal à se développer. Alors il essaye de trouver des stratégies, on verra ça dans le tome 4.
Il n'a pas intérêt à réussir, sinon tu n'auras plus rien à écrire.
Effectivement.
Bon. Par contre, ce n'est pas qu'on n'ait plus rien à dire, mais l'heure a tourné très très vite. Il faut dire que 8000 ans d'histoire égyptienne résumée ici en 45 minutes par nos trois auteurs, on n'a pu que survoler les choses. Donc, merci beaucoup.